Bonjour Boris.
Bonjour Victor.
Alors aujourd'hui, on va parler d'une molécule importante en médecine. On va parler des oxalates. Les oxalates ou acides oxaliques sont à l'origine de nombreuses maladies en médecine, comme les calculs urinaires par exemple, responsables des coliques néphrétiques, mais aussi de maladies moins connues. Allez, restez avec nous, on va tout vous expliquer. Alors Boris, qu'est-ce que le sel d'oseille?
Pourquoi sel d'oseille? Parce que l'oseille justement contient ce sel qui est de l'acide oxalique ou des cristaux d'oxalate. Il n'y a pas de différence pour nous en tout cas, les différences chimiques ne nous intéressent pas, c'est la même molécule en réalité, et cette molécule s'appelle l'acide éthanidioïque, peu importe, ça n'a pas d'intérêt pour nous.
Et d'où provient cet acide oxalique?
L'acide oxalique, en ce qui nous concerne les humains, c'est déjà un déchet, hein, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un produit terminal du métabolisme, bref, c'est une espèce de toxine, si vous voulez, que l'on doit excréter, que l'on doit sécréter, dont on doit se débarrasser. En revanche, l'acide oxalique est une molécule nécessaire à la vie, à la survie des végétaux. Ce n'est donc pas du tout un déchet en ce qui les concerne. Dans la pratique, l'acide oxalique provient en petite quantité de nos déchets liés à notre métabolisme et en grande quantité, en plus grande quantité en tout cas, à l'acide oxalique que nous absorbons via notre alimentation et notamment en ce qui concerne certaines plantes qui sont particulièrement riches en acide oxalique.
Ah ça c'est très intéressant. Et à quoi sert cet acide oxalique chez les plantes?
Il a deux rôles principaux, du moins de ce qu'on sait, il y en a peut-être d'autres que l'on va découvrir. Le premier, c'est un rôle métabolique, donc elle fabrique cet acide oxalique pour permettre de mieux réguler certains aspects du métabolisme, et dans lequel je ne vais pas rentrer parce que c'est assez long. Et puis, deuxièmement, c'est aussi une molécule qui lui permet de se défendre, et donc notamment en créant des lésions aux méchants animaux qui voudraient les dévorer. Néanmoins, contrairement à l'homme, un certain nombre d'animaux herbivores, et notamment les ruminants, ont mis au point tout un tas de stratégies qui leur permettent efficacement de se débarrasser de l'acide oxalique et donc de la toxicité de l'acide oxalique.
Et donc aujourd'hui, on retrouve l'acide oxalique ou le sel d'oseille dans les rayons des grands magasins de bricolage. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi sert l'acide oxalique de nos jours?
Alors effectivement, j'en ai acheté dernièrement et donc j'ai essayé de regarder un peu plus en détail tous les usages de ce sel d'oseille. Il est utilisé comme agent de blanchiment pour les bois ou les textiles. Il est utilisé comme nettoyant des taches de rouille, notamment sur des carrelages par exemple. Il est utilisé comme agent de dérouillage mais aussi de polissage du marbre. Il sert comme agent de traitement des surfaces des métaux. Il sert également pour la fabrication d'un certain nombre de composés de type fibre plastique en tant que monomère. Et pas des moindres, l'acide oxalique est aussi utilisé comme pesticide, notamment pour un acarien qui qui tue littéralement nos abeilles.
Alors, il existe aussi une maladie humaine dans laquelle l'organisme va fabriquer une grande quantité d'acide oxalique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les effets de cette maladie génétique?
Alors effectivement, il s'agit d'une maladie génétique qui est relativement rare. Il s'agit de l'hyperoxalurie primitive. Alors on dit primitive parce que la cause, c'est la mutation. Et cette maladie entraîne des concentrations élevées d'acide oxalique dans le sang, mais aussi du coup dans un certain nombre de tissus. En réalité, pour simplifier, cet acide oxalique va se déposer dans la plupart de nos organes. Par exemple, le rein, par exemple, le cerveau, par exemple, des organes digestifs. On peut encore citer la moelle osseuse, on peut citer les articulations, bref. Ces cristaux d'acide oxalique vont se déposer un peu partout et créer un certain nombre de conséquences dont on peut parler. Parmi ces conséquences, il y a bien sûr les calculs rénaux. Alors ça, on le sait, hein, il n'y a pas besoin d'avoir une hyperoxalurie primitive pour avoir ça. Même si on mange simplement des quantités importantes d'oxalate, on peut développer des calculs urinaires, donc des coliques néphrétiques dont tu parlais au début. Il y a aussi des lésions plus directes du rein. Il y a également des troubles endocriniens et notamment une hypothyroïdie par lésion de la thyroïde. Il y a des anémies par atteinte de la moelle osseuse. Il y a des carences en certains minéraux, notamment le zinc. Cela provoque également des douleurs sexuelles chez certaines femmes. Et ça a été documenté, même bien documenté. De la même façon, il a été documenté que dans certains troubles de type autisme, il y avait chez un certain nombre de patients, des taux d'acide oxalique 2 à 3 fois plus importants que chez des enfants du même âge qui ne présentent pas d'autisme. Et du coup, il y a des essais qui ont été faits pour enlever une partie de cet acide oxalique en changeant les habitudes alimentaires, par exemple, mais pas seulement. Eh bien, on se rend compte qu'on améliore, dans certains cas, les symptômes. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que l'autisme se résume à l'acide oxalique, pas du tout. Néanmoins, ça intervient dans un certain nombre de cas d'autisme et c'est assez intéressant. L'acide oxalique a aussi des propriétés cancérogènes, notamment dans le cancer du sein, par exemple. Et enfin, il intervient dans certaines maladies neurologiques comme l'épilepsie. On pourrait en citer encore d'autres, mais on va peut-être s'arrêter là pour l'instant.
Ok, donc une maladie métabolique avec des implications très très larges sur l'organisme, comme on peut le voir. Et alors, l'acide oxalique est-il toxique chez les gens qui n'ont pas cette maladie génétique?
La réponse courte est oui, tout à fait. La réponse un peu plus détaillée est que peut-être pas chez tout le monde, et ça dépend en fait des quantités. Hein. Comme vous le savez, ce qui fait le poison, c'est la dose. Et là, en ce qui concerne l'acide oxalique, c'est particulièrement vrai. Donc, lorsque les doses d'acide oxalique sont relativement élevées dans le sang, eh bien, on va pouvoir présenter les mêmes symptômes que dans le cas de la maladie génétique. En gros, on a ces dépôts comme dans la maladie génétique, mais en plus faible. Une nuance cependant, on est devenu, pour certains, tellement herbivore ces dernières années qu'en fait, les taux d'acide oxalique, les concentrations, sont parfois aussi importantes, voire même nettement plus importantes que dans le cas de la maladie génétique. Donc, prudence, mais on pourra en reparler éventuellement tout à l'heure.
Et donc, comment prévenir cet excès d'acide oxalique?
Il est important de noter, juste avant de voir quelques astuces, que les concentrations élevées en acide oxalique dans le sang et les dépôts hein, dont on a parlé dans les organes, eh bien, cet excès d'acide oxalique est dû, dans presque tous les cas, à un excès d'apport d'acide oxalique. C'est-à-dire que nous en fabriquons, on a dit que c'est un déchet, mais globalement, en fait, on n'en fabrique jamais énormément. Alors, il y a une exception qu'il faut bien noter. Cette exception concerne certains sportifs qui veulent prendre du muscle de façon importante et rapide, et donc qui vont avoir recours à des quantités de protéines très très importantes, et en général largement au-delà de 2 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, avec des suppléments protéiques. Et là, à ce moment-là, il y a effectivement une forte augmentation des taux d'acide oxalique. Mais si on met ça à part, et on dit que les protéines ne dépassent pas environ 30% maximum de notre ration énergétique, eh bien, l'acide oxalique du sang et des organes provient de notre alimentation. Comme ça provient de notre alimentation, on peut donc prévenir cet excès d'acide oxalique. Tout d'abord, il est souhaitable d'éviter les plantes qui sont les plus riches en acide oxalique. Et parmi ces plantes, il y a quasiment des bombes en acide oxalique hein, qui en contiennent des quantités absolument colossales. Parmi ces plantes, on peut citer le curcuma en poudre, hein. On peut citer le thé, et notamment l'extrait de thé en poudre. Alors je ne parle pas de thé qu'on va faire infuser, hein, puisque alors là on dilue considérablement l'acide oxalique, je parle du thé qu'on mangerait hein, sous forme de poudre, et le figuier de Barbarie. Ces produits contiennent des quantités donc très 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 importantes d'acide oxalique à tel point que des doses létales ont pu être répertoriées autour de 50 g jusqu'à 250 g. En gros, de 50 à 250 g de ces produits, et en tous les cas au-delà de 250 g, on court un risque évident, des cas de mort par ingestion ont été rapportés liés à l'acide oxalique. Donc c'est pas de la rigolade. On trouve aussi beaucoup d'acide oxalique dans les jus de plantes. Ça peut être donc les jus de fruits, mais aussi des smoothies comme le fameux green smoothie, hein, le smoothie vert qu'on utilise en hachant un certain nombre de plantes à feuilles dont on va voir qu'elles contiennent pour certaines beaucoup d'acide oxalique. Certaines boissons alcoolisées contiennent de l'acide oxalique et on peut citer la bière qui en contient davantage que le vin rouge qui lui-même en contient davantage que le vin blanc, sachant que d'une façon générale, si on prend le fruit en question, par exemple le raisin pour le cas du vin, eh bien le raisin contient notamment en jus plus d'acide oxalique que son équivalent fermenté, la fermentation en détruit une partie. Il y a certains champignons comme le fameux chaga, il y a la famille des blettes et épinards, il y a les légumes de la famille des choux, brocolis, choux de Bruxelles, il y a bien sûr l'oseille, mais ça n'est pas elle qui en contient le plus même si elle en contient beaucoup. Enfin, on peut retenir le persil et le cacao qui en contiennent des quantités importantes, mais ce sont des produits qu'on consomme finalement généralement en faible quantité. Alors, si on en consomme plus de 50 grammes et a fortiori une centaine de grammes, là effectivement, on arrive à des doses importantes d'acide oxalique. Donc, éviter ces plantes est très important pour limiter l'absorption d'acide oxalique. Mais il y a d'autres facteurs qui vont potentialiser l'absorption et la toxicité de l'acide oxalique. Et donc, on peut parler, par exemple, de certaines chirurgies gastriques comme les bypass, ou bien de la consommation de certains antibiotiques, certaines familles d'antibiotiques qui vont détruire une bactérie que l'on a et qui nous aide à diminuer l'absorption de l'acide oxalique, elle le détruit en partie. Il s'agit d'Oxalobacter formigenes, mais bon, on se fiche du détail. Troisièmement, il est intéressant de limiter la consommation de glucides. Alors, on a déjà vu que les glucides, les sucres, hein, en général, sont assez rapidement toxiques pour l'être humain. Là, il s'agit d'une toxicité supplémentaire des glucides, les glucides ou sucres, sucre rapide, sucre lent, vont en fait augmenter, aboutir à l'augmentation de la concentration des urines en acide oxalique. Et donc le risque qu'ils précipitent pour faire des calculs urinaires est beaucoup plus important, et le risque que les cristaux attaquent aussi directement le rein est beaucoup plus important. Enfin, on peut limiter la consommation de vitamine C. En effet, aujourd'hui, on passe notre temps à surmanger de la vitamine C. On a l'impression que ça va guérir tous nos maux. Alors, les compléments alimentaires, les vitamines du matin, etc. Voire une consommation excessive de fruits qui contiendrait beaucoup de vitamine C. Bref, cette surconsommation de vitamine C produit de l'acide oxalique. Donc, c'est aussi une façon d'augmenter la concentration d'acide oxalique dans le corps. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête quand on veut s'automédiquer avec de la vitamine C d'une façon ou d'une autre.
Merci beaucoup. Bon, je crois que c'est très complet, hein, donc si je peux récapituler, attention à la consommation de végétaux qui sont riches en oxalate, attention aux antibiotiques, attention à la vitamine C et attention à la consommation de glucides, bien entendu. Merci beaucoup, Boris, pour avoir répondu à toutes ces questions.
Merci à toi.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un j'aime si vous avez aimé notre vidéo. Vous pouvez également nous rendre visite sur notre site www.sequoiasante.com et y télécharger un e-book offert que nous avons co-rédigé avec Boris et qui aborde les thématiques de la longévité qui nous sont chères.
À bientôt.
À bientôt et prenez soin de vous surtout.